Salut les joueurs et salut les joueuses, c'est Dédé Chutes en direct de Essen et je suis avec Cyrus.
Bonjour.
Et nous sommes ici avec Mathieu Bonin. Salut Mathieu.
Salut.
Alors si on est là avec toi, c'est pour parler de DZ. Parce qu'on a entendu DZ, on nous explique les règles du jeu en 30 secondes. Alors moi je suis interloqué par ça.
Moi je voudrais déjà savoir comment on prononce.
Alors c'est un nom en anglais, donc nous on prononce plutôt Dized.
Ah, moi je continue à appeler DZ, parce que moi je lis DZ.
Parce que nous on est des Français, on ne sait pas parler anglais.
C'est bon, j'ai l'habitude, j'ai entendu DZ, Dized, Dized, j'en entends, mais je traduis, j'arrive à traduire.
Ok, et donc l'explication des règles en 30 secondes, c'est pas un peu ambitieux ça comme principe?
Alors l'explication des règles en 30 secondes, c'était une petite blague qu'on avait fait sur Twitter pour faire parler un peu du projet. Nous, le credo, c'est plus l'explication des règles sans avoir quelqu'un qui t'explique les règles sous la main et surtout pendant que tu joues pour éviter d'avoir à te fader toutes les règles à l'avance et les réexpliquer aux autres joueurs ou même d'avoir à comprendre toutes les règles avant de commencer à jouer. L'idée, c'est qu'on pense qu'un tutoriel peut t'expliquer les règles pendant ta première partie sans forcément que tu attendes de tout savoir pour commencer à bouger un pion.
Ok, c'est un peu comme dans le jeu vidéo en fait, c'est ça l'idée.
C'est clairement l'inspiration. En fait, on s'est dit qu'aujourd'hui, on peut à peu près tout faire sans forcément préparer ou attendre. Tu veux manger, t'as pas envie de cuisiner, bah tu peux commander une pizza sur ton téléphone. Tu veux jouer à un jeu vidéo, t'allumes ta console et directement ça t'explique comment jouer. Même tu veux regarder un film, bah tu lances Netflix et hop, tu l'as déjà sous la main. Mais pour les jeux de société, bah t'as envie de jouer à un jeu de société. Si c'est un nouveau jeu de société, quel que soit le jeu, il faut d'abord que t'apprennes la règle avant de pouvoir commencer à t'amuser. Et c'est ça qu'on essaye de résoudre. Il faudra quand même apprendre la règle, mais là tu apprendras la règle en t'amusant directement, en jouant tout de suite.
Ok, d'accord. Et donc on a des tutoriels qui nous expliquent pas à pas, mais c'est pas un peu trop scripté ça, ou justement vous travaillez là-dessus?
Alors justement, le but c'est que ça soit pas que ça impose aucune action aux joueurs. On travaille beaucoup les tutoriels pour qu'ils t'expliquent chaque point de règle au bon moment, et du coup c'est des tutoriels qui sont interactifs, qui vont demander aux joueurs quand il faut ce que les joueurs veulent faire, quelles actions ils font, pour pouvoir t'expliquer en précision les règles au moment où tu en as besoin. On n'est pas du tout dans l'optique de faire suivre un script précis aux joueurs pour leur expliquer toutes les règles exactement dans l'ordre dont on a besoin. On s'adapte vraiment à la partie des joueurs.
Ok.
Alors l'idée elle est venue d'où? Parce que, enfin, il y a déjà eu des tentatives pour faire en sorte que le jeu soit plus abordable. On voit des jeux comme Andor par exemple qui ont eu cette idée de faire un jeu sous forme de tutoriel. Finalement, la première partie elle t'explique comment ça se joue, enfin, même s'il faut lire une ou deux pages quand même, je crois, avant. Où là on a sur le salon, là, on a les jeux de Freeman Freeze là, de la gamme Fast Forward, qui t'explique les règles en allant. C'est venu d'où? Parce que de se dire on va lancer une application, parce qu'on l'a pas dit clairement, mais c'est une application donc dont il s'agit.
Alors en fait, l'idée elle vient de deux auteurs finlandais qui au départ sont issus du développement d'appli mobile et qui sont des passionnés de jeux, qui avaient lancé il y a 2 ans. Un jeu de société qui s'appelait Race to the North Pole, qui avait été venu présenter à Essen et qui s'était dit après quelques salons où il devait expliquer les règles à la chaîne, bah, pourquoi on ne ferait pas une application pour expliquer les règles de nos jeux. Ça avait tellement bien marché qu'à un moment ils se sont dit en fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est pas des jeux de société, c'est vraiment cette appli qui proposerait d'expliquer les règles d'un maximum de jeux de société aux gens qui veulent les découvrir.
Ok, et du coup, t'as pas peur que ça perde un petit peu en convivialité avec une application comme ça au milieu de la table qui va expliquer les règles? Ou enfin, j'imagine, j'extrapole énormément, mais j'imagine Essen en 2025-2030 où finalement il n'y a plus que des tablettes autour de. Il n'y a plus que des tablettes sur les tables et les gens, il n'y a plus personne pour expliquer les jeux. Et...
Mais au moins les jeux seront bien expliqués.
C'est ça, Essen n'est peut-être pas le meilleur exemple parce que de plus en plus on a quand même des joueurs qui nous disent bah là on m'a expliqué le jeu, je sais pas si c'était de l'anglais ou du polonais mais j'ai rien compris, ou la personne qui m'a expliqué les règles, je pense que c'est la première fois qu'elle voyait une boîte de jeu de sa vie. Mais en fait la question est quand même assez récurrente. Il y a plein de gens qui nous disent mais voilà, les jeux de société c'est ça doit être convivial, etc. Alors nous on le pense tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose pas une application qui permet de jouer sur mobile. On pense juste que la convivialité dans les jeux de société, elle n'est pas au moment de l'explication des règles. L'explication des règles, souvent, c'est un moment où t'en as la moitié qui se met sur son portable parce qu'ils en ont marre, t'en as un qui est en train de s'endormir et t'en as l'autre qui essaye de deviner les règles avant que tu les expliques et t'as envie de le trucider. Donc la convivialité, elle est là parce qu'on apprend tous les règles ensemble, on est sur un même niveau et un même... Enfin voilà, il y en a pas un qui va expliquer les règles aux autres. Et que au final, bah, on découvre le jeu en même temps. Alors effectivement, il y a un écran, mais l'écran, il n'est pas entre les joueurs. Les joueurs sont ensemble autour de la table.
Ok. Et alors là, on a vu en démo à Essen, vous aviez 4 tables, je crois, de King Domino. Est-ce que vous pensez faire des jeux un peu plus costauds que ça ? Parce que là, on arrive quand même. Enfin, King Domino, c'est un jeu assez simple à expliquer et rapide à expliquer aussi. Mais on pense à des jeux beaucoup plus gros. Est-ce que vous pensez vous attaquer à ça ?
Ouais, on est sûr que le concept forcément marche avec des jeux comme on a fait Carcassonne et King Domino pour l'instant. Ça marche très bien, ça permet à des gens qui aiment pas lire les règles ou qui ont jamais lu des règles d'accéder à des jeux qui sont simples mais auxquels ils auraient peut-être pas joué quand même. Mais on est aussi en train de travailler là sur Blood Rage. Dans nos cartons, on a Scythe aussi qui va arriver. Forcément, ça sera pas le même genre de tutoriel. Ça sera des tutoriels qui seront sans doute un peu moins linéaires, où il y aura sans doute un peu plus d'explications avant de pouvoir commencer la partie. Mais le principe reste le même. On sait que avec un petit peu d'astuces et surtout beaucoup de compétences en développement informatique, ça, je fais confiance à mes collègues, on arrive à faire des tutoriels pour tous les types de jeux.
En parlant de tes collègues, alors vous êtes combien actuellement dans Dice?
Alors moi je suis le seul à bosser en France et même je suis le seul à bosser hors de Finlande. Et en Finlande, j'ai pas encore été voir les bureaux. Je crois qu'on est une douzaine, mais je suis pas certain parce qu'en plus ils ont tous des prénoms que j'ai du mal à retenir en finnois. Mais ouais, on est au moins une dizaine, entre 10 et 15 je pense.
En tout cas, pour une boîte qui se lance, c'est assez important quand même. Tu me dis une dizaine de personnes. On aurait imaginé peut-être 2-3 personnes. Et là, j'aurais eu tendance à te dire, ouais, mais enfin, comment vous allez suivre le rythme? Parce que bon, moi, je travaille dans l'informatique, je sais un peu ce que c'est, même si je ne sais pas quels sont tous vos outils à disposition. Mais enfin, il faut quand même suivre. C'est quoi le rythme que vous êtes fixé? Combien de jeux à sortir par, je sais pas, par mois, par an, par jour?
Alors déjà, c'est vrai que moi-même, ça m'a le modèle m'a un peu surpris parce que moi, j'ai bossé dans l'édition de jeux de société. La plupart des éditeurs de jeux de société que je connais, ils sont lancés dans leur cave avec leurs acédiques tout seuls. Voilà, ils ont commencé comme ça. Dans le milieu du développement d'applications, c'est un peu différent. Là, ils ont eu une idée, ils ont été la pitcher à des investisseurs, ils ont réussi à regrouper l'argent suffisant pour monter une équipe pour pouvoir commencer le développement. Donc ça explique qu'on a une équipe déjà disponible. En termes de rythme, aujourd'hui, ça nous prend à peu près un mois pour développer un tutoriel. Mais en même temps qu'on développe les premiers tutoriels, on est en train de développer des outils, une plateforme qui va permettre à nos développeurs d'être beaucoup plus rapides pour créer un tutoriel, mais également d'ouvrir cette création de tutoriel aux éditeurs et à des personnes qu'on va former, qu'on va certifier, qui pourront eux aussi participer à la création. Donc, ce qu'on espère, c'est avoir entre 20 et 30 jeux d'ici le lancement de l'application l'an prochain. Mais très rapidement, dans les mois qui suivent, on a un objectif de minimum une centaine de jeux par an sur l'application, minimum.
Parce que quand tu dis un mois pour faire une appli, c'est un mois pour les 12 personnes ou c'est un mois pour une personne et du coup ils sont 4-5, je vais dire, à faire vraiment ça et...
Aujourd'hui, c'est un mois pour l'équipe, mais encore une fois, hein, c'est parce qu'on développe les outils en parallèle et que on prend aussi de l'expérience là-dedans. On doit avoir deux développeurs, on a un ingénieur son et une chef de projet, plus la personne qui rédige les tutoriels à l'avance. Mais tout ça, ça va. L'objectif, c'est de le simplifier au maximum et de l'automatiser au maximum avec des outils, notamment, je pense. Je vous ai montré tout à l'heure l'application avec les animations qui bougent. Ça peut être automatisé, et ce qui nous prend aujourd'hui une après-midi, ça peut nous prendre 5 minutes parce qu'on aura les outils qui vont bien et qui peuvent nous permettre de facilement développer des applications spécifiquement pour les jeux de société et pour notre application.
Ok, mais donc dans l'application, il n'y aura que des tutoriels, ou vous avez prévu autre chose encore pour les jeux ?
Alors les tutoriels, c'est vrai que c'est la fonctionnalité qu'on met en avant en ce moment, parce que c'est la plus emblématique, j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est plus d'avoir pour chaque jeu dans le catalogue une myriade d'outils, de fonctionnalités. Donc le tutoriel, un outil de consultation des règles qui permet de rechercher rapidement un point de règle pendant qu'on est en train de jouer, soit en tapant ou en dictant une question, soit en se baladant dans des rubriques de façon très rubriquée et très intuitive. On peut imaginer du contenu additionnel comme des nouveaux scénarios, des musiques d'ambiance, des outils pour aider au décompte des scores, etc. Et on prévoit aussi des outils qui seront là plutôt réservés aux abonnés, qui seront des outils plutôt sociaux pour aider à trouver des joueurs autour de soi, pour pouvoir organiser ses soirées jeux rapidement, consulter ses groupes de joueurs, etc.
Enfin, je trouve l'idée des musiques, par exemple, particulièrement intéressante, surtout que, enfin, aujourd'hui, on a tendance à vraiment beaucoup mettre en avant le thème dans les jeux. Enfin, c'est l'impression, en tout cas, que me donne le marché. Parler d'abonnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est quoi votre modèle, en fait, économique ? Vous comptez donc demander aux gens qui téléchargent l'application de s'abonner ? Est-ce que l'application elle est payante ? Est-ce que les éditeurs participent aussi au développement des tutoriels ? Autre que s'ils le font eux-mêmes, je veux dire.
Ouais, déjà pour prouver que je suis pas chauvin, si t'aimes bien les musiques d'ambiance, tu peux aller sur Melodice. C'est un site qui tu tapes le nom d'un jeu et ça te sort des musiques adaptées pour tes parties. C'est vraiment pas mal.
Peut-être un partenariat à prévoir ?
Oui, peut-être, on est déjà en contact avec pas mal d'autres plateformes pour justement créer des synergies. On a rencontré Sirenscape, je crois, qui propose des effets sonores, au genre de choses. Donc ouais, on cherche vraiment à développer ce genre de coopération. Pour répondre à ta question sur le modèle économique, parce que c'est vraiment là-dessus que tout va jouer et c'est là-dessus qu'on réfléchit le plus en ce moment. L'application sera gratuite en téléchargement pour tous les joueurs qui auront accès à une sélection de base de jeux qui sont les jeux sur lesquels on est en train de travailler actuellement et qui sont des jeux, des fers de lance un petit peu, des jeux emblématiques qui vont nous permettre de aussi nous faire connaître l'application. On peut citer Seven Wonders, King Domino, Carcassonne, Blood Rage, Scythe, etc. Les joueurs pourront aussi télécharger un jeu gratuitement chaque mois. Donc tous les 30 jours, tu décides si tu veux garder le même ou si tu veux changer de jeu. Quand je dis télécharger un jeu, c'est tout le contenu pour un jeu, tous les outils pour un jeu. Si les joueurs veulent plus, ils pourront débloquer des jeux de façon permanente pour quelques euros. Voilà, on connaît pas encore le prix, mais ça va dépendre. Pour des petits jeux, ça commencera à 1 euro. Pour des jeux un peu plus costauds, ça pourra peut-être monter jusqu'à 4-5 euros. S'ils veulent encore plus, ils pourront s'abonner. Pour l'instant, on est sur un abonnement prévu à 5 euros par mois. Ça sera pas plus cher. On pense que c'est la limite psychologique pour que les gens se franchissent le pas. Et ça te donne accès à tout le catalogue, à toutes les fonctionnalités, à vraiment tout le contenu.
Est-ce que je sais pas si tu as des relations avec les ludothèques, par exemple, c'est des choses qui les intéressent, peut-être ce genre d'outils, parce que c'est leur métier. Alors, est-ce que ça les intéresse ou est-ce que, au contraire, ça leur amène des craintes, peut-être ?
C'était une question que je me posais aussi. Et pour... Alors, j'ai pas encore parlé à beaucoup de ludothèques. J'ai parlé pas mal à des boutiques ou des cafés-jeux. Mais les problématiques des cafés-jeux rejoignent un peu celles des ludothèques parfois. L'accueil est plutôt très positif. Les gens y voient un outil qui leur permet de répondre à des demandes, soit quand ils sont en sous-effectif, qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde, soit quand les gens leur demandent une explication d'un jeu que eux ne maîtrisent pas. C'est un outil qui peut être intéressant. C'est pareil sur les salons. Ça peut être un outil intéressant pour venir en appui d'animateurs. Pour l'instant, la crainte d'être remplacé par l'application, elle n'est pas trop présente. Et je pense qu'effectivement, nous, on ne cherche pas à remplacer qui que ce soit. On cherche à proposer une solution alternative pour justement des moments où... voilà, même quelqu'un qui aime bien lire les règles, des fois, il achète un jeu, il a une soirée dès le jour même et il n'a pas forcément le temps de lire les règles. Bah, il peut là avoir un outil qui lui permet de jouer directement à son jeu sans avoir à s'isoler pendant une heure pendant que les autres s'amusent pour potasser les règles, quoi.
Oui, c'est vraiment du pur service, quoi. On n'a pas dit, est-ce que l'application, elle sera dans quelle langue, en fait, l'application ?
Alors, forcément, au départ, de base, elle est en anglais.
Oui, elle n'est pas que en finlandais, alors que en finnois.
Non, ils sont conscients que ça serait un petit peu compliqué au niveau du marché. J'ai appris qu'en Finlande, il y avait moins de 100 millions de personnes, donc ça fait un marché quand même assez petit, même s'ils sont très joueurs. Donc oui, l'anglais forcément. Moi, si je fais partie de l'aventure, c'est aussi parce que on veut que le maximum de contenu soit en français, en allemand également. On a défini 7 ou 8 langues prioritaires. En fait, c'est 7 langues prioritaires plus le finnois, parce que c'est facile pour eux, qui sont de tête l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le polonais et le russe. Donc On garantit pas que tout le contenu sera dans toutes les langues, déjà parce que ça viendra peut-être dans un second temps pour certaines langues, mais aussi parce qu'on veut pas se limiter à des jeux qui sont dispo dans toutes ces langues-là. J'ai rencontré des éditeurs qui sortent que des jeux en français, et bien entendu, ils seront bienvenus sur la plateforme avec du contenu que en français et que disponible pour les Français.
Voir, ça peut être intéressant pour eux justement qu'il y ait un contenu en anglais à la limite sur la plateforme, ça peut leur permettre éventuellement quelques petits débouchés. Bon, j'imagine que c'est pas. L'idée, c'est quand même plus intéressant pour de sortir le jeu en anglais que de sortir l'application en anglais avec le jeu en français.
Après, ouais, on veut pas non plus se fâcher avec les gens qui localisent les jeux. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui sur SN, on rencontre beaucoup d'éditeurs. On veut vraiment créer une coopération forte et intelligente avec eux.
Oui, parce que tu parles de, il y a des problématiques de localisation, c'est-à-dire que du coup, si effectivement un éditeur est pas d'accord pour que un éditeur qui a pris un jeu qui était en français à la base, qui l'a exporté pour le mettre en anglais, il n'est pas d'accord pour la problématique, c'est quoi ? C'est parce qu'il n'est pas d'accord pour participer au financement du développement sur DICE.
En fait, je dis ça, mais parce qu'on est très prudent. Aujourd'hui, on n'a pas eu de cas d'éditeurs, notamment français, qui m'auraient dit « je veux pas du tout que la règle elle soit en français parce que les joueurs pourraient acheter un jeu en anglais. » Voilà. Déjà, d'une part, je pense parce que les joueurs qui sont susceptibles d'aller acheter en import, etc., c'est pas forcément notre cœur de cible. C'est des gens qui pourront se retrouver peut-être dans les outils, dans les fonctionnalités, mais sur le tutoriel, c'est pas certain que ça soit le public cible. Aussi parce que je pense que les éditeurs de plus en plus se rendent compte que quand un jeu marche bien en anglais, bah c'est bon aussi pour leur propre localisation. Donc voilà, je disais ça, c'était un peu pour la boutade et un peu aussi pour montrer qu'on est prudent, on essaye de réfléchir à tout, de se mettre personne à dos et de créer une application qui est adaptée à la fois aux joueurs, à la fois aux éditeurs et à tout le monde.
Ok. Juste pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la campagne qu'il y a eu sur Indiegogo, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez atteint effectivement les objectifs que vous étiez fixés, etc.
Et quand ce sera disponible, bien sûr.
Alors ouais, là, on a fait une campagne effectivement de financement participatif sur Indiegogo. On est très content du résultat parce qu'on a levé 150 000 euros, sachant que ça fait de nous la quatrième application la mieux financée, toute plateforme confondue. La meilleure, je crois qu'elle doit être à 600 000. Ça nous permet aussi d'avoir créé une communauté de 4000 backers qui vont eux avoir accès à la bêta d'ici la fin de l'année et sur lesquels on va vraiment s'appuyer pour avoir des retours, pour adapter tout ça. Après, le petit bémol qu'on peut mettre, c'est qu'on a quand même pas mal de gens qui nous ont dit si ça avait été sur Kickstarter, j'aurais peut-être participé, mais là non. Donc, il n'est pas impossible qu'on retente quelque chose avec Kickstarter pour essayer de toucher ces gens-là, plus dans une optique d'agrandir notre communauté, notre fanbase, que d'aller chercher de l'argent supplémentaire, qui sera quand même le bienvenu, parce qu'il faut quand même qu'on travaille d'ici la sortie de l'application. Mais voilà, la sortie de l'application, de la finale, on a mis le mois de août 2018 dessus. Moi j'ai tendance à dire d'ici SN 2018, on a vraiment envie d'avoir des jeux qui sortent à SN 2018 qui soient disponibles dans l'application à leur sortie. Donc est-ce qu'on arrivera à tenir le mois d'août ou est-ce que ça se décalera d'un ou deux mois, c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas notre objectif là c'est SN 2018.
Et du coup vous cherchez un peu des partenariats aussi de fusion en présentation d'ICE et présentation de nouveaux jeux pour 2018, non?
Sous quelle forme, tu veux dire?
Bah, par exemple, de proposer à des éditeurs que bah, vous fassiez le développement du tutoriel de leur futur jeu et que bah, ils présentent quasi essentiellement, on va dire, avec cette appli.
Ça c'est le deal qu'on a eu avec la première vague. Maintenant, on est plus sur la recherche d'un modèle qui permettrait aux éditeurs de participer financièrement à la création des tutoriels ou de la prendre en charge eux-mêmes, puisqu'on leur mettra à disponibilité des outils. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un tarif. Tous les éditeurs que je rencontre sont hyper intéressés par le projet. Bien entendu, l'interrogation c'est est-ce que tout le monde va s'y retrouver financièrement. Moi je suis à peu près sûr qu'on arrivera à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, mais ça nous demande encore pas mal de travail.
Ok, très bien, bah, écoute, merci beaucoup Mathieu. Est-ce que tu veux ajouter des choses éventuellement, des choses qu'on aurait ratées?
Non, je crois qu'on a fait pas mal le tour.
Ok, super, merci beaucoup.
Merci et bon salon encore.
Bon salon à toi, au revoir.
Merci, bon courage à vous, ciao.